Désolé, mon message n'a que peu d'intérêt. L'équipe de Daniel Mermet, vous mériteriez des coups de botte aux fesses. Je rentre dans ma bagnole, j'entends votre émission sur le dopage. Je suis professeur d'éducation physique qui rame depuis 30 ans. Vous avez fait une émission géniale et je l'ai pas dans la boîte et j'ai pas les moyens par le web de la récupérer. J'en suis furieux. Comment on fait pour savoir de quel sujet vous allez traiter quand on n'est pas devant le poste? Allez, félicitations à tous, c'est bien. Et puis le gars qui écoute le répondeur, ça doit être chiant quand le message n'est pas utilisable. Salut à tous, je vous embrasse.
Oui, bonjour, c'est Romain à Paris. J'ai écouté l'émission sur le dopage. C'était pas mal. Moi, je suis auteur-compositeur et je me demande ce que je pourrais prendre pour avoir du talent, parce que j'aimerais bien trouver une écurie. Enfin, nous, on dit pas une écurie, on dit une boîte de production. Mais voilà, bah, je sais pas, je vais peut-être me mettre à boire comme ça, même si ça me donne pas de talent, ça me donnera l'impression d'en avoir. Allez, salut.
Allô, le DAL du Nord-Pas-de-Calais. Vous signalant qu'aujourd'hui, il y a un cri de détresse de 42 femmes d'origine guinéenne pour la plupart, qui mettent en péril leur vie par une grève de la faim, parce qu'elles en ont assez de vivre dans des taudis, parce qu'il n'y a pas effectivement de logement par rapport aux gens qui ont la triple discrimination pauvres, femmes d'origine étrangère. Je pense avoir oublié de signaler que cela se passait à Lille et non au Rwanda. L'histoire continue malheureusement. Alors, s'il vous plaît, signalez ça. Merci.
Auditeur du Pays Basque et des environs, vous qui pensez que les ouvertures des magasins le dimanche sont stupides, absurdes, venez donc participer à une manifestation qui se déroulera ce dimanche 18 avril à 10h devant le magasin Castorama d'Anglette. En effet, la direction de Castorama Anglette a décidé, contre l'avis de l'ensemble du personnel, d'ouvrir quelques dimanches et 7 jours fériés pour l'année 2004. Nous, salariés du commerce, nous avons aussi droit à une vie familiale. Afin que le dimanche ne devienne pas un jour marchand, auditeurs du Pays Basque et des environs, venez donc manifester massivement, je le redis, ce dimanche 18 avril à 10h, devant le magasin Castorama d'Anglette qui sera ouvert. Salut et bon vent à là-bas si j'y suis, Christophe, délégué syndical CGT de Castorama Anglette.
Et voilà. Un cas caractérisé de détournement d'une antenne nationale par, vous avez entendu, par des feignants hein, qui veulent pas travailler le dimanche, par de gens qui protègent des sans-papiers, et puis alors par un professeur d'éducation physique qui ne sait pas qu'il ne faut surtout pas réécouter les émissions de là-bas si j'y suis sur le site pirate qui stocke ces émissions. Il faut surtout pas aller sur lbsjs.free.fr parce que ce sont des pirates qui stockent toutes les émissions de là-bas si j'y suis depuis plusieurs années. Et comme c'est des pirates, eh bien, il faut surtout pas y aller. Je vous signale toujours ça au cas où par hasard vous ou vos enfants tomberiez sur ce site lbsjs.free.fr. C'est l'endroit où il faut surtout pas aller réécouter les émissions de là-bas si j'y suis. Alors le dopage, eh ben, on continue aujourd'hui. Aujourd'hui, le Secret des Fonces, deuxième partie.
Moi, Richard Virenque, j'aime la vie. J'ai une santé de fer et je fais très attention à mon alimentation. Mais ne nous voilons pas la face, j'ai 35 ans, je suis une personne âgée maintenant. La vie est ainsi faite, vers 30-35 ans, l'homme se fane et doit laisser sa place sur terre, quitter son enveloppe Chanel. Ben, c'est le cycle de la vie. Vous aussi, un jour, vous aurez 30-35 ans. Et il faudra partir. Ça vient plus vite qu'on ne le croit. C'est pourquoi, moi, Richard Virenque, j'ai souscrit à la convention obsèque Gresham & Witch Union pour protéger les gens que j'aime. La vie passe à une vitesse folle, surtout quand on fait du vélo. Alors vous aussi, vieux de 30-35 ans, souscrivez à la convention Gresham & Witch Union pour le bien de votre famille.
Convention Greenwich Union, 30-35 ans, pour tous les sportifs en fin de vie. Attention, passé 29 ans, un examen de santé est obligatoire.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Thierry Scharf, là-bas si j'y suis. Secret défonce.
Flight number 2, arriving from New York.
Attention, on a sifflé, les têtes se penchent, les gens se dressent dans la tribune, les photographes sont devant le tunnel, un coup de pistolet vient de retentir, et la cloche sonne, les voici. C'est Tesser et l'Italien Corrieri qui rentrent seuls en tête sur cette piste et qui vont disputer le sprint pour la victoire finale de cette dernière étape. Et voici que Corrieri bat Tesser, Corrieri bat Tesser de deux longueurs. Ainsi donc, Corrieri gagne la 21e et dernière étape devant Lucien Tesser. Et je pense qu'on va pouvoir avoir les temps. Et voici le deuxième peloton qui arrive emmené par Kirchen. Il y a là tout le peloton, comprenant notamment Bartali, Lapébi, Scott. Ce peloton est emmené par Kirchen, il a dans sa roue Rémi. Les coureurs sont maintenant bien groupés dans la ligne opposée. À l'extérieur, Bartali, porteur du maillot jaune, semble vouloir déborder ses rivaux. Il a pris la roue de Kietard, mais voici que Rémi à la sortie du virage, plonge à la corde et semble devoir enlever la troisième place, c'est-à-dire la première place de ce peloton. Rémi gagne. Et voici une immense clameur qui monte à l'adresse de Bobet.
Des bouffées de nostalgie à travers tout le pays aujourd'hui en écoutant ces voix, en écoutant ces musiques et en écoutant aussi ces noms, Lapébi, Lucien Tesser, Gino Bartali, celui qui s'arrêtait dans les virages pour aller prier dans les églises, Lapébi, les cycles Lapébi. Moi j'ai eu un vélo, moi qui vous cause, j'ai eu un vélo Lapébi. Et après l'arrivée de l'étape qu'on écoutait religieusement en regardant la TSF, et ben on allait dans le quartier sur nos vélos et on faisait le tour du quartier. On était des coureurs, c'était l'âge d'or du vélo, l'âge d'or des amateurs. C'était oui, il faut bien dire, un opium du peuple. On parlait de religion, comparer le sport à la religion, mais oui. Sauf que ce que nous ignorions à l'époque, c'est que l'opium en question n'était pas une métaphore, c'était une réalité. Et aujourd'hui, sur les podiums, si on fait la liste des vainqueurs du Tour de France depuis la Seconde Guerre mondiale, plus de la moitié, eh ben, étaient des gens qui ouvertement se dopaient. Le sport et la dope, c'est une vieille coutume. Pourquoi s'acharner sur le sport, puisqu'après tout, bon, bah, s'envoyer en l'air semble bien accompagner toute l'histoire de l'humanité, et pas seulement l'histoire du sport, mais aussi l'histoire des aventures de l'esprit, de l'art, etc. Un certain Jacques Chirac, le 1er novembre 2000, s'adressant à un certain Richard Virenque, lui disait ceci. Vous êtes le dépositaire d'un certain panache, un exemple pour les jeunes. Et oui, il y a une exemplarité du sport. C'est bien le ministère de la jeunesse et des sports dont il s'agit. Alors voilà, nous savons tous qu'il se défonce. Pourquoi est-ce que nous l'acceptons? C'est quand même assez mystérieux. Une réponse est peut-être sortie un beau jour de la bouche même du général de Gaulle, à qui on faisait observer que tel champion, mon général, serait peut-être un petit peu dopé. Le dopage, répondit le général. Quel dopage? A-t-il, oui ou non, fait jouer la Marseillaise à l'étranger? Chauvinisme donc, nationalisme, affaire d'argent, affaire de rêve, affaire de plaisir aussi de ces gamins dont je faisais partie, qui faisaient le tour du pâté de maison en se prenant pour Lapébi, pour Bartali, pour Coppi, Bobet, Kubler, Darrigade et les autres. C'est ce dont nous parlons aujourd'hui jusqu'à 18h sur France Inter. Reportage de Thierry Scharf. Secret défonce.
Faire le Tour de France, c'est le rêve de tous ceux qui ont un vélo.
la seule espérance du titi, de la fête et du mécano. Faire le tour de France, arriver à Paris en vainqueur, être sacré roi des pédaleurs. Faire le tour de France.
J'ai connu un petit gars qui ne ménageait pas sa peine et ses efforts pour devenir très fort, faisant de la gymnastique, de la culture physique, du rugby, du football, du basket, du handball.
Il y gagna du souffle et de bons muscles souples, à tous ses petits copains pouvait rendre des points. Il glanait les succès, déjà la gloire lui souriait. Mais.
Vive le Tour de France 98 et je remercie le public qui a été très très... qui nous a énormément soutenus et je donne rendez-vous l'année prochaine.
Et pour parler des gars qui étaient chargés, on disait comment ?
La soupe, elle était bonne hier, quoi. Hein. La soupe était bonne. Hein. Ah oui. Ou le poisson, il était pas mal non plus. Ça se disait déjà à l'époque d'Anquetil, ça. Qu'est-ce qu'on disait encore ? Ouais, il est pas tout seul aujourd'hui. Il est pas tout seul sur son vélo, lui. Ah oui, il a amené son copain.
Le sport pas très propre, un champion français a payé cher pour avoir enfreint les règles. Philippe Boyer a été vice-champion du monde du kilomètre sur piste en 1985. Dans le milieu, il était surnommé Panoramix, grâce sans doute à sa potion magique. Inculpé d'usage de produits dopants et stupéfiants, il a effectué un an de prison.
Je me rappelle, c'est ici que ça s'est passé, mon dépucelage aux amphétamines.
Ah oui.
Ouais. C'est-à-dire que ici, je fais une course ici, une course internationale un jour, et je suis avec un copain qui est professionnel, un ancien pro, je crois qu'il a même été maillot jaune du Tour, qui était un sprinter, et qui faisait une course ici sur piste avec moi. Et on était dans la cabine derrière, et il casse une ampoule de tonédron. Le tonédron, c'est des amphétamines de l'époque qu'on trouvait en pharmacie, pas en vente libre, mais qu'on trouvait en pharmacie. Il casse une ampoule de tonédron, il me dit « je vais pas tout mettre, t'en veux un peu ?» Alors moi, je suis provocateur, et je fais toujours le mec qui sait tout. Donc je dis ouais, pas de problème, je suis le mec qui a déjà mis, mais j'en ai jamais mis. Et je mets le truc, putain, 5 minutes après, je suis le roi du monde. Hein. Oh putain, on est bien avec ce truc-là. On dit, je prends le départ d'une course, bon, je gagne en me baladant. Je marchais, hein. Mais plus de crainte, plus d'angoisse.
Parce que ça agit aussi sur le psychique, quoi.
C'est surtout sur le psychique.
Surtout, en fait.
Surtout sur le psychique. Mais simplement, là où vous aviez peur d'attaquer ou de prendre une initiative, là, vous la prenez. Vous prenez pour Eddy Merckx, ça. Aucun doute, là, je vais gagner. Comme j'étais déjà un des meilleurs à ce moment-là, le petit truc qui mangeait mes inhibitions, ça, bon, voilà, c'était à rigolade. Hein. Donc, je gagne cette course-là aux amphétamines. Je dis, putain, c'est bien, ce truc-là. Et alors, surtout qu'après, on a fini la course, on s'est tous retrouvés ensemble, on a fini en discothèque, et ça a duré jusqu'au lendemain matin. Hein.
C'est, ah oui, putain, avec une pêche.
Sans fatigue. Ouais, je dis, putain, c'est vraiment bien ce truc-là. Et là, puis on rentre, on se couche, et puis on n'est pas mal. Hein. On n'a pas, là, on n'est pas tombé encore dans l'indépendance. Là, on n'est pas tombé dans l'indépendance.
La lichette, vous connaissez la lichette ? La fléchette, vous connaissez la fléchette ? Eh non, c'est un langage codé. Willy Wood nous en a parlé hier, hein. La chaudière, le boulon de 15, le porte-plume, tout un langage codé qui camoufle, qui euphémise. Le dopage. Le dopage, on parle du cyclisme, on ne va pas parler seulement du cyclisme, sans doute parce que c'est un des sports les plus populaires, les plus anciens, qui est lié d'ailleurs, hein, le cyclisme, avec la révolution industrielle, comme le sport d'ailleurs. Hein. Le sport s'est développé avec la révolution industrielle. On parlera d'autres sports, mais d'abord celui-là, à cause des récents scandales, parce que bientôt, on va vers l'été, Tour de France, à nouveau, on aura des histoires, des scandales, mais la course aura lieu quand même, devant des publics
soit devant la télé, soit sur la route du Tour, qui acceptent, qui savent, mais qui acceptent. Bon, il y a le spectacle d'un côté, on n'est pas là pour aller voir dans les coulisses. Ben nous, on y va un petit peu aujourd'hui dans les coulisses avec Philippe Boyer, un champion, un ex-champion, quadruple champion de France, 83, 85, 86 et 87, et comme le disait cette archive de France Inter, vice-champion du monde de 85 du kilomètre. C'est un pistard, ce Philippe Boyer, et puis un beau jour, c'est une grande gueule, hein, c'est un gars qui la ramène, qui a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Champion, flic et voyou, aux éditions de la Martinière, il y a un an ou deux, je crois, et il fait partie de ceux qui balancent.
Et puis bon, ben après, ça c'est en 85 que j'ai découvert les amphétamines. Et puis après, je suis parti dans plusieurs voyages en Colombie où j'ai découvert la cocaïne.
Ah ouais, deuxième étape.
Ouais, on grimpe dans la hiérarchie. Et à partir de ce moment-là, je suis pas toxico parce que je suis encore sportif de haut niveau. Mais de temps en temps, quand il y a un petit coup de moins bien pour aller s'entraîner, par exemple quand il fait ce temps-là, là, on voit, ça bruine et tout. On n'a pas trop envie d'aller s'entraîner. Il faut y aller quand même. Avec les amphétamines, de ce coup, la bruine, c'est plus de la bruine. On part rouler sous la flotte pendant 5 heures, ça...
Rien.
On est bien. On est avec un pote, on discute, on est tous les deux allumés. Et on va faire les bandes. Alors là, on culpabilise pas, on se donne bonne conscience. Grâce à ça, je m'entraîne bien. Et il n'y a pas de contrôle l'hiver. On se cache derrière le fait, on est pro, c'est notre métier, on n'est pas toxico.
Ouais.
On se dit avec le sport, on élimine, c'est pas... Puis on fume pas, on boit pas en sport. Donc on se donne notre conscience, après tout je fume pas, je bois pas parce que je prends un peu d'amphé de temps en temps, de cocaïne, que je suis un drogué. Et on n'a pas ce côté dépendance. Le fait de m'être dopé m'a toujours gêné, moi.
Ah ouais.
Je suis pas quelqu'un qui suit pour le dopage. Moi je suis rentré dans la dope, on va dire contraint et forcé. Gérant qui dit à l'insu de mon plein gré, mais moi j'y suis rentré contraint et forcé. C'est-à-dire, j'assume complètement ce que j'ai fait, simplement ça me fait pas plaisir d'avoir été obligé de passer par là pour y arriver. Bon, alors maintenant, je me retranche toujours derrière de dire je suis pas pire que les autres, mais ça n'empêche pas que j'aurais préféré évoluer dans un sport sain où juste les qualités ressortaient. Bon, alors j'y suis rentré contraint et forcé. Par contre, après, moi, quand je me suis retrouvé en prison pour trafic de produits vénéneux, puisque les amphétamines, c'était ça, j'ai fait 9 mois.
Ouais.
C'est longué, hein. Quand tu te retrouves en prison, ce qui se passe, c'est que tu vois à la télé tes anciens potes, t'as la télé. Tu vois tout le monde, tu vas dire, mais attends, avec lui, je me suis allumé la gueule. Lui, quand il était coureur, il était grave. Directeur sportif, coureur. Il dit, mais attends, je mérite pas d'être en prison pour ça, moi. Si tous les mecs qui tapent dans les amphétamines, tous les mecs qui en ont vendu ou qui en ont acheté, doivent aller en prison, faut construire un vélodrome à Fleury-Mérogis, hein, parce que c'est pas possible. Alors, on reçoit ça comme une injustice. Mais moi, je suis pas plus malhonnête que les autres, je suis pas plus pourri que les autres. Je veux faire ressortir que c'est plus un état des lieux. Et c'est un parcours qu'on fait, mais on n'est pas isolé, on est à plusieurs. Il y a des témoins, il y a des complices. On traverse 10-12 ans de carrière sportive. Je suis pas le pire, je suis pas le mieux non plus. Je suis dans la moyenne.
Jacques Godet, est-ce que vous trouvez pas malheureux, pour l'image du Tour, que quelqu'un qui l'ait remporté 2 fois, Laurent Fignon, puisse être accusé de doping 2 jours avant le départ?
C'est malheureux qu'il soit accusé, Laurent Fignon. Y a-t-il des problèmes, d'échanges de flacons, d'erreurs matérielles?
Vous n'avez pas l'air de trop y croire.
Je n'en suis vraiment pas sûr. Tout est possible quand un grand nombre de flacons passent par des voitures, passent par différentes mains, prennent le train. Enfin, tout est possible. Mais enfin, je crains, moi, que les coureurs professionnels ont encore une propension à rechercher, pour les meilleurs d'entre eux, une certaine aide. Et j'espère que par conséquent, il ne s'agira là que d'une fausse alerte.
Petit numéro de langue de bois dans cette archive. On voit la façon dont des grands responsables du cyclisme français noient le poisson avec la complicité du journaliste. Évidemment, c'est toujours le sportif lui-même qui trinque et qui tout d'un coup, bon, voilà, il y a un bouc émissaire. Hop, celui-là, c'est la brebis galeuse. Il faut s'en séparer, mais le sport
sport continue. Évidemment que tout ça est un appareil, est un système qui est absolument complice, y compris le spectateur, hein, y compris le public qui maintenant n'ignore plus rien sur le dopage, mais fait mine de l'ignorer ou peut-être l'accepte, trouve que c'est très bien. Et là, c'est assez préoccupant si c'est ça qui se passe, et tout indique que c'est ça qui se passe quand même, parce que le sport, ça vient, bon, c'est pas la politique, hein, la politique c'est au début d'un journal, dans l'information, bon, quand on en arrive à la page sportive, et ben là on se détend, on sourit, on est dans le jeu, on est dans l'amusement, on est dans la neutralité, en tout cas, bien évidemment, on est loin, oh là là, bien loin de la politique et encore plus de l'idéologie. Eh ben, pas du tout. Il y a une normalité, il y a quelque chose de il y a des valeurs qui circulent par le sport, hein, plus haut, plus loin, plus fort, plus. Et puis, cette image de pureté, cette image de l'homme se dépassant, c'est de très très haute valeur fondatrice de nos civilisations. Pour nos jeunes, c'est quelque chose de très très important. Donc il n'y a pas du tout, il n'y a aucune neutralité là-dedans. Il y a bel et bien des idées qui passent par le sport, et on peut dire, oui, la formule géniale, à l'insu de notre plein gré, le sport crée une doxa, c'est-à-dire des idées qui passent pour normales, et notamment des idées de la compétition, du gagnant, du perdant, de la guerre de tous contre tous, par n'importe quel moyen, tous les moyens sont bons. Et le dopage nous dit ça. Alors, à chaque fois, bien évidemment, on le disait encore une fois hier, c'est une banalité, une généralité, que de dire, oui, depuis toujours, depuis l'origine de l'humanité, on s'est envoyé en l'air, etc. Il est bien probable qu'avec la course effrénée au profit qui envahit complètement le sport, faisant disparaître la notion de jeu sous la notion de sport, spectacle, où le profit seul domine, bien, notre époque accroît de plus en plus cette dépendance et fait du sport un opium du peuple et véhicule les idées, l'idéologie dominante de ce qu'il faut bien appeler l'ultralibéralisme. L'idéologie ultralibérale passe très probablement par le sport à l'insu de notre plein gré.
Est-ce que c'est la logique de compétition qui fait qu'on se dope?
C'est la logique du sport qui fait qu'on se dope. C'est parce qu'à partir du moment où il y a des enjeux aussi bien, faut savoir qu'une sélection aux Jeux Olympiques, une sélection championne du monde, que vous voulez une médaille aux Jeux Olympiques, ça représente je sais pas combien d'argent. Et même sans parler d'argent, le fait d'atteindre son but, c'est énorme. Combien il y a de gens qui peuvent dire, quand ils arrivent à 60 balais, il y a un moment, j'ai atteint mon but. Professionnel ou nous avec le sport on touche le haut, hein. Quand vous rentrez dans un stade le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, le vivre à la télé c'est une chose, le vivre dans le défilé c'est, moi entre aller tirer un coup et ça j'ai choisi, hein. Et donc ça, tout ça c'est des victoires, passer la ligne en vainqueur, marquer un essai en rugby, même Platini le disait, hein, qu'à 32 ans qu'elle a arrêté le foot, il dit je suis déjà mort une fois. Donc ça prouve bien que c'est des sensations qu'on retrouve pas ailleurs.
C'est fort, quoi.
Vous montez sur un podium au championnat du monde, on a plus mal aux jambes parce qu'on tremble que sur le vélo. C'est des sensations qui sont jouissives, ouais. C'est plus les bons souvenirs, ces souvenirs-là qui reviennent que les mauvais souvenirs. La prison, c'est passé, tout ça. Mais le sport, c'est les bons moments avec les copains ici, à rouler à 70 à l'heure. De voir le copain qui revient au pédalier et qu'il passe pas, c'est ces moments-là qui sont les plus forts. C'est pas la cam, c'est les conséquences derrière. Parce qu'on veut rester dans cet état-là.
Rester au sommet.
Rester dans cet état de bien-être.
D'extase.
D'extase qu'on avait avec le sport. Donc, on va taper dans les produits qui existent et qu'on connaît. Et grâce au sport, on connaît les amphétamines, on connaît la cocaïne, et donc on va chercher ces produits-là.
Toi, tu dirais que t'as été trop loin?
Moi, j'ai été trop loin après. C'est-à-dire, j'ai continué à provoquer, j'ai continué à dire je ne me ferai pas prendre, et puis j'ai été trop loin, et je me suis fait prendre.
Le cyclisme à nouveau secoué par une affaire de dopage. Un scandale qui touche cette fois le VTT. L'homme par qui le scandale arrive, c'est l'ancien champion du monde de VTT en 96, le français Jérôme Ciotti. Écoutez la réaction de Daniel Ball, le président de la Fédération française de cyclisme, joué au téléphone par Germain Treille.
Bon, Jérôme Ciotti aujourd'hui dit qu'il est courageux parce qu'il avoue. Bon, c'est bien d'avouer. Mais je crois qu'il va falloir aller beaucoup plus loin que de simples aveux. Le titre de champion du monde lui a fait gagner de l'argent, j'imagine. Il faudrait qu'il réfléchisse à l'utilisation qu'il fera de cet argent gagné en trichant. Et puis, il avoue également que en 1999, il s'est arrangé avec Miguel Martinez pour le titre de champion de France. Je trouve ça absolument désolant. On est complètement à côté de l'esprit sportif, à côté de l'esprit olympique. Et par rapport à ça, je suis très surpris que ces gens-là soient candidats pour participer à des Jeux olympiques alors qu'ils ne respectent même pas l'esprit des Jeux olympiques.
Et oui, oui. Il est formidable, ce gars-là. La défense des jeux, des défense de l'esprit olympique. Et toujours quand on est dans la malversation et il y a toujours, c'est toujours des grandes valeurs, hein, qui sont mises devant, en paravent pour essayer de, et ça réussit pas si mal d'ailleurs, de camoufler ce qui se passe. Voilà. Jérôme Ciotti, en voilà un autre, champion de VTT en 1996, qui, n'en pouvant plus, en 2000, alors qu'il est en activité, eh bien, qui raconte et qui lâche. Jérôme Ciotti.
Jérôme, vous êtes un cas à part parce que vous avez décidé, un beau jour, de dire non au dopage et de dire ce ne sera pas l'insu de mon plein gré.
Un cas à part, je ne sais pas trop. Ce qui est certain, c'est que je suis le seul à avoir en activité osé l'avouer, quoi. Donc, ça s'est très simplement passé, c'est que l'affaire Festina a eu lieu au mois de juillet. Sur le moment, comme beaucoup de gens du milieu et de l'extérieur qui suivent un peu le cyclisme, je me suis dit que l'affaire allait être étouffée comme toutes les autres. Et puis bon, avec le temps, les mois passant, je me suis aperçu que non, c'était quand même quelque chose qui avait été pris au sérieux. Donc je me suis dit, si on doit commencer une révolution, autant la commencer en même temps que tout le monde. Donc forcément, j'étais un peu naïf, mais je le savais pas à l'époque, c'est que on a tous plus ou moins arrêté. Mais certains ont recommencé dès les débuts des mois de la saison suivante. Pendant mes deux dernières saisons, j'étais dans la grande équipe Pessina qui était devenue numéro un mondial en l'espace de deux saisons. Mmh. Et bon, c'est vrai que sur le moment, on est toujours fiers avec le recul. Bon, on sait très bien comment toutes ces victoires durant la saison ont été glanées, quoi. Pendant 4-5 saisons, je me suis dopé. Je suis passé pro en 94 à l'âge de 22 ans, sans jamais avoir touché auparavant dans ma carrière amateur le moindre produit interdit. Et il m'a fallu 15 jours pour être entre guillemets mis à la page, rentrer dans la culture des professionnels, quoi. C'est-à-dire qu'un ancien de l'équipe s'est occupé de moi, il m'a expliqué comment fonctionnait le métier. Alors bien sûr, c'était pas la personne en question n'avait pas mauvais fond. Maintenant, c'est quelque chose de tellement culturel qu'il a pensé qu'il fallait faire la même chose, comme j'ai pu le penser après. La carrière d'un pro à l'époque était faite comme ça.
Toi, t'as rendu ton maillot.
Oui, moi, c'était un peu une démarche logique. Si je reconnaissais m'être dopé, je reconnaissais aussi que j'avais volé, entre guillemets, mon second. Donc, lors d'une conférence de presse, j'ai rendu ma médaille et mon maillot à mon second de l'époque, c'est un Suisse, Thomas Frischnech.
Laura, vous êtes l'épouse de Jérôme. Vous avez vécu avec quelqu'un, un sportif de haut niveau, qui se dopait, qui l'a reconnu et qui vous l'a dit aussi rapidement.
Moi, j'ai toujours tout su. Dès le départ, et d'ailleurs j'étais contente de le savoir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes, peut-être pas maintenant, mais à l'époque, beaucoup de femmes qui ne savaient pas ce que faisait leur mari, et je préférais encore savoir et être malheureuse de cette état de fait que de ne pas savoir. Bon, je m'en rendais pas trop compte des effets, à part quand des fois je l'accompagnais sur les courses, et où là il prenait quelque chose pour la course, là c'est sûr qu'il était euphorique.
Là vous le reconnaissiez plus à ce moment-là ?
Non. Ils revenaient parce qu'ils allaient tous se changer ensemble dans les vestiaires et ils revenaient avec des yeux énormes et puis tout fou, quoi. Je vais gagner, et ben un peu tremblant. Et là, c'est vrai que je me dis, mais c'est pas normal, quoi. Il fallait toujours voir des gens de ce milieu-là parce que c'était leur sujet de conversation et puis il fallait toujours qu'ils soient à la pointe du dernier produit arrivé, donc il fallait qu'ils se tiennent au courant et on voyait personne d'autre à part ces gens-là.
Est-ce qu'ils parlaient souvent de dopage, quoi ?
Ah bah tout le temps. C'était le sujet. Je sais pas si on allait dîner chez des amis forcément du milieu cycliste, c'était le sujet de la soirée. Ouais, toi, qu'est-ce que t'as comme produit nouveau? Qu'est-ce que t'as pris pour cette course? Et qu'est-ce que ça fait? T'as pas des sources des derniers trucs arrivés? Enfin, c'était ça, quoi. Et puis, au fil du temps, quand même, j'ai commencé à me poser un peu des questions, puisque j'avais envie d'avoir des enfants et que je savais pas comment ces produits allaient agir sur mon éventuel enfant ou même sur lui. Donc, j'ai commencé un peu à me documenter, mais... pour lui, c'était inconcevable de faire du vélo et de gagner sa vie sans prendre de produits.
Et les produits, ils étaient chez vous aussi ou quoi?
Oui, ils étaient chez nous et après, ils étaient chez des amis. Alors, il y avait des complices. Et... parce qu'après l'affaire Festina, en 98, il y a eu pas mal de descentes de police chez les coureurs et ça devenait un peu dangereux d'avoir ces produits-là chez soi. Donc, nous, on avait toujours peur que la police arrive. Enfin, peur. Moi, j'aurais été soulagée que la police arrive. Hein. C'est sûr, il aurait eu des problèmes avec la police, mais au moins, ça aurait peut-être été le mettre face à...
Ça aurait été un coup d'arrêt, quoi.
Coup d'arrêt. Enfin, ponctuel, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu des descentes de police chez eux, mais après coup, ils ont recommencé. Hein, mais pour moi, c'est pas des champions, quoi, c'est des tricheurs.
Il faut bien encore reparler ce soir des mouvements revendicatifs des coureurs. Voici en la circonstance Cyril Guimard, président des coureurs français.
Il n'a jamais été question de faire la grève sur le Tour de France, mais de faire un mouvement sur le contrôle et non pas sur la course. Actuellement, rien ne va plus, ils commencent à avoir marre des contrôles. À pas des contrôles par là, mais de la façon dont ils sont faits et de toutes les rumeurs qui peuvent circuler autour de ces contrôles.
On ne peut pas dire que le Tour soit malade du dopage. Ce qui est navrant et proprement inadmissible, c'est que le sport cycliste soit l'objet d'une discrimination. Je la juge, pour ma part, absolument intolérable. Je trouve inadmissible, en tout cas, que ce contrôle s'exerce seulement en matière de sport cycliste. Il est scandaleux, scandaleux, que même au ministère de tutelle, on exerce une surveillance active que sur le seul sport cycliste.
Voilà, c'est en 68 ce document qu'on vient d'entendre, Cyril Guimard contre les contrôles, cette voix qui s'est indignée de ce monsieur indigné, eh ben oui, ben, bon, les autres sports ont été concernés et contrôlés par la suite, on a trouvé très souvent des résultats voisins et les enquêtes montrent que, ben voilà, c'est pas seulement effectivement le cyclisme qui est concerné. Le journal, l'hebdomadaire L'Express a publié un entretien très court d'un cycliste, confession d'un cycliste propre, qui est très très passionnant, très révélateur de ce phénomène. On peut se poser la question, et vous la posez souvent, qu'est-ce qui se passe si je ne me dope pas? Moi, je suis un champion, je suis un sportif de haut niveau et je refuse. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a la réponse dans cet entretien. Ben, la première chose, c'est que le sportif, le cycliste qui répond, d'abord, il est anonyme. Bon, ça montre bien que c'est pas facile de parler si on refuse de se doper. Et il explique qu'il fait du vélo depuis son enfance et qu'il a cru qu'il était possible de rouler à l'eau claire. C'est une expression. Rouler à l'eau claire, c'est-à-dire sans se doper. Et il raconte comment c'est. Il est impossible de briller chez les pros sans être dopé. C'est donc... finalement, c'est celui qui ne se dope pas qui est minoritaire. C'est celui qu'on aurait dû interviewer, on aurait gagné beaucoup de temps. Et ce garçon explique que on le laisse faire, je peux rouler à l'eau claire, cela ne gêne personne à condition que je ne crie pas sur les toits. Je sais que je ne gagnerai jamais de grandes courses, mais je peux rendre quelques services à mes leaders. Cet hiver, j'ai signé un contrat de 2 ans avec une nouvelle équipe. Aurais-je la force de résister? Le dopage n'est pas une fatalité, mais c'est la seule façon d'obtenir des résultats dans les épreuves de renom. Je crois que j'ai suffisamment d'amour propre pour tenir et rester clean, je crois, etc. Et la chute de ce petit entretien, c'est que sa copine l'a largué parce qu'elle a trouvé qu'il était trop hypocrite alors qu'il essaye d'éteindre. En fait, on aurait été beaucoup plus vite au lieu de trouver des garçons, des coureurs, des sportifs, des champions qui finissent par avouer, d'en trouver un qui essaye de rester clean dans ce sport très j'allais dire pourri, non, mais enfin voilà, vous avez compris. Alors, il y a
parmi, il y a des spécialistes de ces questions de très près. Voilà le docteur Jean-Pierre de Mondenard, qui a écrit beaucoup de bouquins, d'ouvrages sur le dopage, et qui nous explique, dans son dernier livre, Dopage, l'imposture des performances, mensonges et vérités sur l'école de la triche, que le dopage a de l'avenir.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui se prépare dans les laboratoires de dopage ?
Aujourd'hui, il faut distinguer deux choses. C'est que d'une part, la majorité du dopage se fait encore avec des substances produites par le génie génétique des années la fin des années 80, où il y a eu l'hormone de croissance qui est apparue, le PO, l'érythropoïétine et d'autres, gonadotrophines chorioniques, et c'est ça qui sont des hormones. Donc la science a reproduit par génie génétique, par un moyen bon marché et sans risque de contamination, de reproduire à l'infini des hormones qui vont mimer ce que font déjà ces hormones dans le corps. Donc on a amélioré le transport de l'oxygène grâce à l'EPO, on a amélioré la croissance musculaire grâce aux anabolisants, grâce à la testostérone, grâce aux hormones de croissance et d'autres dérivés. Voilà, donc ce sont les principales substances qui sont utilisées aujourd'hui. Mais effectivement,
la production courante, quoi. Hein.
Bien sûr, et qui permettent aussi, ça c'est important, parce que c'est l'objectif numéro un des sportifs, c'est pas d'accepter le contrôle antidopage, c'est de le contourner. Donc il faut toujours utiliser des substances qui sont indécelables et efficaces. Dès qu'une substance indécelable n'est plus indécelable, eh bien elle est morte, plus personne l'utilise. Dans le futur immédiat, effectivement, on va faire fabriquer au corps les hormones elles-mêmes. On va intensifier cette fabrication et on va la moduler suivant les besoins. Et ça se fera automatiquement par des implantations dans le corps de thérapie cellulaire, thérapie génique, où on envoie le message aux cellules du corps et c'est elles qui feront elles-mêmes la production de PO sur des cellules souches, par exemple de la moelle, on va faire fabriquer de l'EPO à l'infini. Et bien sûr, on va aussi transformer les fibres musculaires en plus performantes. On va pouvoir transformer pas mal de choses dans le corps, mais effectivement, le sport sera bien loin. Le sport tel qu'on le connaît ne sera plus vraiment du sport dans ces cas-là.
Ça y est, c'est la clameur. On commence à s'agiter. C'est la clameur qui va déboucher en tête au vélodrome ici à Vincennes. Eh bien, c'est un concurrent qui est tout seul. Voyons voir, nous allons le voir tout de suite. C'est Willy Terlinck. Willy Terlinck, une fois de plus, qui est tout seul, qui est suivi de Lucien Aymar. Lucien Aymar en compagnie également d'un autre concurrent et il s'agit de Primo Mori. Willy Terlinck est toujours en tête. Voici le maillot jaune maintenant qui a décidé de ne prendre aucun risque. Christian Raymond qui regarde où se trouve Willy Terlinck. Willy Terlinck qui va peut-être l'emporter. Non, car il y a Walter Gottfried là-bas qui est en train de faire l'effort pour tenter de revenir. Mais il me semble que cet effort sera bien trop prématuré, qu'il n'y arrivera pas. Va-t-il pouvoir revenir? Non, car il y a Marino Basso dans un sprint. Van Linden également. Mais Willy Terlinck va, semble-t-il, gagner. Oui, victoire de Willy Terlinck. Premier Terlinck, deuxième Basso, troisième Van Linden, quatrième Walter Gottfried, cinquième Gerben Karsten. Et nous enregistrons donc ici la troisième victoire de Willy Terlinck, alors que Eddie Merckx, les deux bras en haut, les deux bras en l'air, a lâché son guidon et se fait applaudir par les Belges qui sont venus en très très grand nombre ici.
L'effet secondaire de la testostérone à court terme, c'est perte de... Au départ, ça vous met une libido du tonnerre, mais au bout de un ou deux mois, en fonction des prises, c'est la perte de libido, c'est-à-dire vous n'avez plus envie, vous n'avez plus d'érection. Et bon, il suffit d'arrêter simplement les produits pour que ça revienne. Mais c'est quand même, moi, c'est quelque chose qui m'a pas mal traumatisé à l'époque, parce que bon, quand vous avez 23 ans, 24 ans, quelque chose comme ça qui vous arrive, c'est y a rien de glorieux à en tirer, quoi. Quand on associe 6, 7 produits que la médecine sait pertinemment nocifs à haute dose, comment voulez-vous ne pas devenir un mutant? C'est par la force des choses, c'est obligé. Et après, certaines, comme on dit, tiens, celui-là, dans le jargon cycliste, on dit, tiens, celui-là, il a la santé, entre guillemets, il a un organisme qui est capable d'encaisser beaucoup de choses, des coureurs qui ont fait
carrière. C'est savoir la santé.
Ben oui, il faut pas se leurrer. C'est comme à l'époque, quand un coureur franchissait subitement un palier dans l'hiver, c'est qu'en général, pendant l'hiver, il avait fait des cures de produits assez intensives qui lui permettaient d'avoir progressé physiquement, quoi. Ce sont toutes ces phrases qu'il fallait savoir lire entre les lignes à l'époque, et ça me fait bien sourire quand certains continuent à les employer aujourd'hui. Heureusement pour moi, je pense, sans vouloir me déculpabiliser, avoir arrêté à temps, inquiétant parce que quand on voit les autotransfusions, des produits nouveaux qui arrivent, qui ne sont même pas dans le commerce actuellement, qui sont en phase d'expérimentation et déjà dans les valises des coureurs comme c'est arrivé pour Dario Frigo autour d'Italie, là c'est quelque chose qui devient très inquiétant et on s'aperçoit que les morts subites, soi-disant naturelles après autopsie, sont quand même de plus en plus fréquentes et maintenant ça n'enlève rien du tout à mes 5 années de dopage intensif parce que malgré tout c'était assez intensif. Donc, eh bien, on vit tous les jours avec cette appréhension-là, mais qu'est-ce que je dois faire? Ou je me dis, bon, mais tu fais abstraction de tout ça et t'essayes de vivre sans y repenser. C'est, je pense que c'est la meilleure des solutions, parce que sinon, vous mettez des idées noires en tête et c'est difficile d'avancer dans la vie avec des idées noires comme ça, quoi.
Et t'as 2 enfants, tu les as fait pendant que t'étais dopé?
Complètement, et c'est vrai que, en tout cas, la première, oui. Ma première réaction, ça a été quand ma fille était née, de savoir si elle avait 2 bras, 2 jambes, même si je l'avais vue à l'échographie, voir si elle avait 10 doigts, si elle avait pas une malformation cardiaque, parce qu'on n'est jamais fier de tout ça et que on y pense malgré tout. Souvent, le ministre des Sports ou Jacques Chirac reçoit les meilleurs sportifs de notre pays pour le remettre à la Légion d'honneur. Là, j'ai dit, il y a quelque chose qui marche à l'envers dans la société, parce que quand on le remet à quelqu'un qui s'occupe d'œuvres caritatives ou d'associations, de gens en difficulté, là, je le veux bien, mais quelqu'un qui passe son temps à tricher, à enfreindre les règles, à s'essuyer les pieds sur un autre quand il est à terre, à prendre des produits interdits, je vois pas ce qui est d'exemplaire là-dedans. Maintenant, la société fait comme ça, donc ces gens-là profitent du système. Et
tu dis ces gens-là, t'en as fait partie.
Oui, ce que j'allais dire, c'est que j'en ai fait partie et j'en ai profité aussi.
Toi, tu as été reçu, tu as eu ces glorifications.
Ouais, j'ai été reçu au niveau fédéral et au niveau du ministère. J'ai quelques décorations, mais bon, voilà, elles sont au fin fond d'un placard et je les mettrai jamais en avant parce qu'encore une fois, ce sont des choses dont les sportifs, en tout cas une majorité, parce qu'on va pas généraliser, certains sportifs propres ont réussi, heureusement. Mais bon, pour la plupart, voilà, ce sont des distinctions que s'ils avaient un peu de recul, ils diraient non, c'est pas possible, je peux pas accepter ça, quoi. Mais bon, quand on me demande, c'est pareil, en fin de carrière, on me demandait souvent, mais alors qu'est-ce qu'on dit sur toi, comment on te présente? Je dis, ben moi, la plus simple façon, c'est de dire, je suis le seul coureur cycliste en activité à avoir reconnu s'être dopé. Le reste, les médailles, les titres, tout ça, on s'en fiche.
Ça, c'est ta plus belle victoire, ça, ce combat-là, quoi, contre le dopage.
Au moins de me dire qu'il pourra, même si c'est qu'à 2 personnes dans tout le restant de ma carrière, si j'ai pu sauver 2 personnes, c'est toujours 2 de sauver, quoi.
Il déboule le ventre à terre. Tous ses exploits, ses victoires ont fait le tour de la terre. Même lorsqu'il a crevé, il ne manque pas d'air. Ses parents en sont très fiers, ses supporters le vénèrent. Car il a l'art et la manière d'un champion extraordinaire. Mon jalala, mon jalala, mon Laurent Jalabert. J'ai beaucoup de respect pour Miguel Indurain, pour Eddy, pour Fausto, ou encore pour le blaireau, pour Roger de Blamin qui est Abraham Olano. Mais celui que j'adore, celui que je préfère, c'est bien entendu notre ami Laurent Jalabert. Mon jalala, mon jalala, mon Laurent Jalabert. Oui, il a l'art et la manière d'un champion extraordinaire. Mon jalala, mon jalala, mon Laurent Jalabert. À Milan San Remo, il était le plus beau. Autour de Lombardie, il a coiffé Bartoli. Et si à Paris Roubaix, il s'est absenté, à la Flèche Wallonne, il a donné le maximum. Est libéré, il a tout fait éclater. Et ensuite au Tour de France, il nous a tous mis en train. Mon jalala, mon jalala, mon Laurent Jalabert. Quand il roule en tracteur, c'est qu'il attend son heure. Et dans le peloton, tout le monde est pris de peur. Le calme avant la tempête, le grand tourbillon. Car bientôt il se déchaîne, il faut prendre le bon wagon. Ils garderont le souvenir d'une roue arrière. Évidemment la roue arrière de Laurent Jalabert. Mon jalala, mon jalala, mon Laurent Jalabert. J'adore, c'est oui, celui que je préfère, c'est celui que préfère ma mère, c'est oui, celui que j'adore, c'est oui, celui que j'adore, celui que je préfère, oui, celui que j'adore, celui que je préfère, celui que je préfère, c'est.
Le dopage touche décidément beaucoup de disciplines sportives, Michel Gourdin.
John McEnroe reconnaissait hier avoir été dopé à l'insu de son plein gré durant 7 ans. Ce matin, c'est Rudzewski qui en remet une couche. Le Britannique, lui aussi contrôlé positif, affirme que 43 des 120 meilleurs tennismans mondiaux sont dans le même cas. Pourtant, la Fédération internationale affirme n'avoir rien trouvé d'anormal lors des 128 contrôles effectués l'an dernier à Roland-Garros. Le football est aussi concerné. Hier, Zidane était convoqué devant le juge de Turin pour évoquer les éventuelles fraudes dans le football italien dans les années 90. Les dirigeants du Hertha Berlin viennent de reconnaître que leur footballeur marchait au super avant la réunification de l'Allemagne. Le cyclisme, bien sûr, le Belge Frank Vandenbroucke et l'Italien Ballerini vont devoir s'expliquer et se justifier devant le juge. Carl Lewis, le plus grand athlète de tous les temps, a lui aussi avoué avoir triché. Sept autres athlètes américains, dont Kelly White, la championne du monde du 100 et 200 mètres, se sont fait attraper depuis, tout comme Chambers, le recordman d'Europe du 100 mètres. Malgré la mise en place d'une agence mondiale, le renforcement des contrôles, le dopage reste une institution. La triche des uns jette la suspicion sur tous les autres.
Pas facile d'empêcher les gamins de fumer un pétard après des informations comme ça. Voilà, donc on l'a compris, on le sait, bien sûr, il n'y a pas que le cyclisme, il y a beaucoup d'autres sports qui sont contaminés par ce que certains appellent le cancer du sport, c'est-à-dire le dopage. Voilà, quelqu'un que Thierry Schaff a rencontré, Georges Marx, qui est Georges Marx, un brave type, qui est champion de lutte gréco-romaine, qui a gagné des tas de choses dans sa vie, il était couvert de médailles en France, mais aussi bien en Europe, dans le monde. Son meilleur résultat a été 7e aux mondiaux de 1982. Donc voilà, un sportif, un vrai, un balèze, un baraqué, Georges Marx.
J'ai souffert d'une pubalgie.
C'est quoi une pubalgie?
Une pubalgie, c'est des problèmes qui arrivent aux muscles qui sont insérés sur le pubis, comme les grands droits, les abdominaux et les adducteurs, qui sont les muscles qui sont très utilisés par les footballeurs, par exemple. C'est souvent une maladie de footballeur, quelques rugbyman.
Donc vous dites aujourd'hui que c'est des effets secondaires liés au dopage que vous avez subi?
Oui, il faut savoir que j'ai augmenté pendant cette période de dopage, j'ai augmenté mes performances de musculation de 10 à 30%. Je courais beaucoup plus vite, hein. Je me rappelle de mon record au 400 mètres, c'était 56 secondes. Et au 800 mètres, je faisais 2,15. Et donc, j'ai amélioré mes temps de course, j'ai amélioré mes charges en musculation. Je luttais mieux. Et donc, forcément, je tirais sur mon organisme. J'ai trop tiré dessus et ça a craqué au niveau du pubis, quoi.
C'est douloureux?
C'est très douloureux. Pour vous donner un exemple, après 2 mois de repos complet, je me rappelle que je pouvais plus faire 2 choses. Pousser un caddie de supermarché et surtout de le faire tourner dans les rayons. Ah, ça peut paraître bête, mais bon, on est champion de lutte, mais on peut plus pousser un caddie dans le supermarché.
Ça paraît incroyable quand vous me dites ça, parce que vous êtes super baraqué, vous êtes lutteur, quoi. Et on vous imagine mal avoir du mal à pousser un caddie, quoi.
Ouais, mais un lutteur, ça mange beaucoup, donc le caddie, il est souvent plein, et donc plus il est plein, et plus c'est dur à...
Non, il y a les roulettes, quand même.
Ouais, et par contre, deuxième problème, c'est que on peut plus marcher, bon, on peut plus courir, hein, et on peut plus marcher longtemps, ni marcher vite. Je me rappelle avoir risqué ma peau en traversant une avenue très roulante à Strasbourg. Je devais accélérer ma traversée, j'ai pas pu. Et j'étais frôlé par une voiture et c'est là que je me suis décidé à faire quelque chose, quoi. Aller voir un chirurgien parce que je pouvais plus rester là comme ça, quoi. Je suis sûr à 100% que ma pubalgie et donc l'opération qui a suivi sont dues à la prise d'anabolisant. Et ces douleurs sont revenues petit à petit pour devenir lancinantes et maintenant, aujourd'hui, permanentes, quoi.
Moscou 80.
Eh bien, dès la première journée des Jeux Olympiques, 2 disciplines vont se partager la vedette à Moscou. La gymnastique féminine, avec un duel attendu entre l'Union soviétique et la Roumanie. Et puis la natation, avec 3 finales, dont le 100 mètres nage libre féminin. Il faudra compter, bien sûr, avec les nageuses est-allemandes, toujours aussi baraquées cette année, comme l'a expliqué à Fabrice Balédan Gérard Garoff, directeur technique national de la natation française.
Les Allemands de l'Est sont les premiers à avoir institutionnalisé la préparation physique pour les jeunes filles à base de musculation intensive.
Il y a quelques années, à propos des Allemandes de l'Est, on avait bien entendu évoquer le mot dopage. Est-ce que c'est une maturation un petit peu artificielle?
Je ne pense pas qu'on puisse prononcer le nom de dopage. Ici, des contrôles sont effectués. Pour ce qui concerne la préparation biologique, entre guillemets, il est clair que nous ne savons pas comment procèdent les Allemands, mais loin de moi l'idée d'accuser ces jeunes filles de dopage.
Voilà, des sujets bien connus, mais c'est la façon dont c'est présenté qui est intéressante, évidemment, à travers toutes ces archives. On voit quand même que peu à peu, tous ceux qui ont avoué, tous ceux qui ont enquêté, ont fini par percer un peu l'omerta, tout simplement, autour de ce phénomène de dopage, à travers la plupart des sports, sinon tous les sports, au moins tous les sports de spectacle, c'est-à-dire tout le sport. Conclusion avec Michel Kaya, sociologue du mouvement critique du sport.
C'est aussi un marché, le dopage. On oublie peut-être de le dire, mais certains économistes, entre autres Jean-François Bourg l'a montré, le dopage, c'est 1 à 2% de l'ensemble de la production sportive, c'est des réseaux, etc. C'est quelque chose d'important. C'est pas simplement quelques topettes qui passeraient ici ou là. Non, c'est vraiment.
C'est pas que derrière le rideau, quoi. C'est structuré, ça s'est organisé.
Ah oui, ça s'est organisé. Mais quand même, vous faites bien de dire c'est derrière le rideau, parce que pourquoi ça marche finalement? Pourquoi les gens, même aujourd'hui, encensent encore Virenc, dont on sait qu'il a été un tricheur, dont on sait qu'il a été un menteur. Pendant 2 ans, il a nié qu'il s'était dopé. Bon, après, le système. Mais parce que tout ce qui compte en sport, finalement. C'est ce qu'on voit. Et je crois que le public, ce qu'il réclame globalement, c'est plutôt c'est l'image de la vérité, mais c'est pas la vérité. C'est le visible qui est omniprésent. Et donc, on voit effectivement les efforts, les gens qui suivent.
C'est le combat, quoi.
Voilà, c'est le combat, directement. Tout ce qu'il y a derrière, l'horreur sportive, comme il y a eu l'horreur économique, eh bien, l'horreur sportive, finalement, tout le monde s'en moque. En gros, qu'au bout du compte, les coureurs meurent plus tôt, ou les athlètes, hein, parce qu'il faut bien se dire, on a tendance, on a parlé beaucoup du cyclisme, mais bon, les nageurs, les athlètes, les haltérophiles, etc., il n'y a aucun sport qui est finalement complètement indemne, hein, du dopage. Et c'est ça, le sportif, il ne porte jamais les valeurs qu'il prêche, mais il donne du beau spectacle. Et ça suffit, en fait, au public et au grand public, et quel qu'il soit. Et c'est un des problèmes d'ailleurs du sport. Pourquoi il est aussi populaire? C'est parce qu'il donne du spectacle. Et donc tous ceux qui regardent le sport n'ont pas envie qu'on les embête avec l'analyse, que je peux faire en ce moment. Et tous les autres, c'est ceux qui n'aiment pas le sport et qui l'analysent pas comme phénomène de société. C'est ça qui est dramatique, c'est que finalement c'est une institution qui aujourd'hui, on peut dire, sature notre espace et notre temps, le sport. Bon, il y a des milliers et des milliards d'heures d'antenne, et finalement est très peu analysée. Et pourtant, il joue indiscutablement, par exemple, le rôle d'une fonction de diversion. Il est évident que quand vous avez 10 heures d'antenne un dimanche de sport et que vous avez 10 minutes sur la marche des chômeurs, on ne peut pas me dire que c'est neutre. Nécessairement, il faut au moins l'analyser. Et je regrette beaucoup que les militants de gauche et d'extrême gauche ne se soient jamais penchés sérieusement sur le problème. Et finalement, on regarde ça en disant « Oh, c'est populaire, voilà ».
Merci à tous, merci à Michel Kaya du mouvement critique du sport pour les joindre critique.sport@libertysurf.fr. Les bouquins Jérôme Ciotti de mon plein gré, Philippe Boyer, champion, flic ou voyou, docteur Jean-Pierre de Mondenard, dopage, l'imposture des performances aux éditions Chiron, reportage Thierry Scharf, le répondeur c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, c'est Christophe Humbert qui en a la lourde charge, assistant Yann Chouquet, c'est Coy Nguyen qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Réclame.